des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
On reçoit deux personnes ce soir qui sont liées de près ou de loin, qui ont un lien, en tout cas, avec la police. Fait que là, j'ai eu une idée à cet après-midi pour le souper. Je me suis dit, tu sais, c'est toujours du sushi des pâtes, du sushi des pâtes. Là, je me suis dit, on pourrait faire venir du poulet. Non. Moi, je la trouvais drôle, mais toi, non. Tu trouves jamais mes blagues drôles.
Ben, c'est comme, probablement, c'est en France qu'on appelle les policiers les poulets. Ici, on les appelle les cochons.
Fait que, bœufs.
Les bœufs. Du poulet. Tu voulais faire venir du Saint-Hubert. Ça manque de respect, là. Tu sais, on reçoit chez nous.
Ils savent qu'on n'est pas bon dans la cuisine.
Les pasta, puis on met la musique du parrain.
Oh! Mon film fétiche. Mon bel amour, j'ai l'impression qu'on reçoit ce soir des sommités dans leur domaine. Écoute, c'est deux personnes pour qui j'ai énormément d'admiration, puis toi aussi, je pense.
Oui, et il y a une personne qui sort jamais, mais jamais. Oui. Il est dans sa grotte depuis des semaines, et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Il y a plein de monde qui me dit « Qu'est-ce qui arrive avec Claude Poirier? » Parce que c'est lui.
Oui!
Il y a plein de gens qui m'arrêtent sur la rue. « Quand est-ce qu'on va revoir Claude Poirier? » Puis tu sais, les gens s'ennuient énormément de lui, de M. Poirier.
10-4.
10-4.
À chaque fois que je lui parle au téléphone, il finit la conversation en disant 10-4. Et je pense que si un jour je lui parle au téléphone et qu'il dit pas 10-4 à la fin de la conversation, je vais m'inquiéter pour lui. Écoute, grand négociateur devant l'éternel. Écoute, il n'y a rien qu'il ne connaît pas dans le domaine policier au Québec. Et c'est pour ça qu'on a pensé à le jumeler avec Félix Séguin, qui travaille au bureau d'enquête de QMI.
Qui est en feu, c'est
qui
ça.
Qui est en ce moment en feu, mais tout le temps. Tu sais, je veux dire, on ne sait pas à quel moment l'enregistrement qu'on fait ce soir va être diffusé. Puis je peux vous prédire qu'aujourd'hui, il est en feu. Puis au moment où le balado va être diffusé, il va être en feu
et
encore.
C'est un grand journaliste d'enquête, mais c'est deux générations. C'est pas la même façon de fonctionner. C'est pas la même façon de voir la police, le travail de la police. Je sais que Claude Poirier est très critique du travail de la police. Je suis pas sûr que Félix l'ait autant.
Ouais.
Peut-être que la génération Claude Poirier était beaucoup plus près de certains gens du milieu que ne l'est, mettons, Félix Séguin. Je sais pas, là, tu sais, j'ai très hâte de voir ça. Et son balado Narcos est super, super bon. Son balado est incroyable. Je suis un fan fini, accro à son balado. Toutes les histoires. As-tu entendu le balado où il y a un gars qui était une mule? OK, il avalait des sacs de drogue qui pour passer aux douanes. Puis il disait qu'à un moment donné, il s'est fait pincer par la police et il est allé aux toilettes de l'aéroport de Pierre-Éliott Trudeau. Et ils ont des toilettes transparentes.
Non.
Et il y a des gens en dessous des toilettes. OK, comme là, c'est vitré. Puis il y a des policiers en dessous, puis ils doivent faire caca devant tout le monde pour voir les sacs tomber. Fait que ta job, quand t'es policier, dit c'est toi à soir qui va aller dans la toilette transparente. Là, tu dis, ah non, dis-moi pas, m'aller regarder les gens chier toute la soirée.
Finalement, j'aime mieux être journaliste que regarder du caca sortir des fesses des trafiquants de drogue. Si t'en parles ce soir, essaye de t'arranger que ce soit plus avec, mettons, la fin du repas, tu sais, pas pendant qu'on est en train de manger. En prévision de la rencontre de ce soir, Félix Séguin nous a envoyé ce qu'il appelle le bingo Claude Poirier. Alors, tu sais, des fois, les gens, ils jouent au bingo en regardant une émission de télé, en disant, la première fois que quelqu'un va dire tel mot, on va prendre un verre, un shooter. Puis là, il nous a envoyé un bingo.
As-tu la liste des noms?
Ben oui, je l'ai, est à côté de la table. Bon, ben attends 2 secondes. OK, je vais chercher ça.
OK, en attendant, là, vous savez, habituellement, les habitués de notre podcast, on parle souvent de notre vie privée puis tout ça. Je vais vous dire, le Claude Poirier est la personne la plus secrète sur sa vie privée. Jean-François Guérin, avec qui je travaille à LCN, me dit qu'il a travaillé des années avec Claude Poirier. Il connaît rien de sa vie privée. Claude ne parle jamais de ses amours, de ses affaires, de sa maison. Personne, tu peux travailler 20 ans avec lui et absolument rien connaître. Donc, je pense pas que c'est ce soir que Claude Poirier va faire des révélations sur sa vie privée.
Tu sais quoi? Quand je lui ai parlé hier, avant qu'il me dise 10-4, là, juste avant qu'il dise 10-4, il a dit « on parle pas de ma vie privée ».
Je me dis « on va le faire boire », mais même pas, il boit du Sprite.
Du Sprite. Il m'a donné le choix, 7-Up ou Sprite. Je me suis dit, ben, je vais choisir le meilleur millésime. Alors, je l'ai, là, le bingo Claude Poirier. On va boire un verre, toi, ben, peut-être pas un verre, une gorgée.
Ben, une gorgée.
Toi et moi, et peut-être Félix, chaque fois qu'il va dire Richard Blas, Franck Choufi, Faisan Doré, Casaloma, Ronde Cuir, Porteux de valise, Je ne crie pas police, Boîte à poux, La couchette entre la défense et la couronne, Sidney Lettman et Discat. Bingo! Pense qu'on va être sous assez rapidement.
Mais il y en a un que je connais, la boîte à poux.
Bon, on va voir.
C'est quoi la boîte à poux?
Ben, si jamais, à un moment donné, pendant la soirée, il dit la boîte à poux, on prendra une gorgée d'abord, puis ensuite, on lui demandera, « Monsieur Poirier, c'est quoi ça, la boîte à poux? » Alors, ouais. Écoute, on n'a pas encore installé le dessert, fait que suis-moi donc pendant que j'installe le dessert. Ah, c'est drôle, j'avais commandé 4 morceaux de gâteau aux carottes. Finalement, il y a 3 morceaux de gâteau aux carottes, puis il y en a un au chocolat. Je pense que je connais quelqu'un qui va être obligé de se sacrifier. C'est pas drôle, la vie!
Un individu.
Alors, écoute, va donc porter le bingo, Claude Poirier. Mais il faut pas jamais qu'à aucun moment pendant la soirée, M. Poirier pense qu'on rit de lui, là.
Pourquoi je...
Parce qu'on a le... Non, mais je veux dire, avec le bingo, puis tout ça, on va faire un clin d'œil
non,
à un moment
c'est
donné,
clin d'œil.
Là.
On a tous nos... On a tous nos béquilles quand on parle.
Et certains en ont plus que d'autres.
Tu parles de moi, OK. C'est quoi la boîte à poux?
Je ne sais pas. C'est quoi la boîte à poux?
Boîte à poux.
Bonsoir. Ça, là, ça, c'est quelque chose.
Écoute,
Monsieur Poirier,
bon, ça commence, les compliments.
Monsieur Poirier,
vous,
comment allez-vous?
Le vieilli, c'est pas.
Allez, ça, j'ai pour vous autres, puis Félix, parce que moi, si c'était une quantaine, fuck you, c'est avec le gérant.
Ça, ça commence super bien.
Ça commence très bien.
Il rentre, il est déjà en train de dire des fuck you.
Alors, vous aimez ça? Ça vous plaît?
C'est beau. La seule chose ici, le problème, ça ne fume pas.
Ah,
alors,
non.
Pendant 2 ans, quelque chose, je ne fumais pas. Vous savez combien de pièces?
Il y a 4 chambres à coucher. Fait que si jamais vous buvez trop de Sprite...
Quand tu ne penses pas d'arrêter de travailler, puis ça coûte plus cher une pièce 7. Hein?
Vous le savez, c'est pas nous autres qui décidons si on arrête
non.
de travailler.
Non.
Vous le savez, ça.
C'est
pas nous autres qui décidons. Il y a des gens qui décident pour nous.
Vous, le mot retraite, vous connaissez pas ça, M. Poirier? Là, j'ai l'impression que vous avez hâte qu'on s'assoie puis qu'on mange puis qu'on commence ça, cette
affaire-là.
Non,
j'aimerais qu'on puisse s'asseoir justement parce qu'on avait des choses à parler.
OK. Alors, regardez ce qu'on fait. On serre l'entrée tout de suite, puis on va s'asseoir, on rentre dans le vif du sujet.
Je vais visiter, là.
Ah oui?
C'est sûr que je vais visiter la maison.
OK. Bon, on va visiter. Alors, on va vous montrer la chambre à coucher. Là, la femme de ménage devait venir aujourd'hui, puis elle n'est pas venue.
Ah, mais c'est pas grave. Ah, c'est beau.
Alors, on va... Hey, Richard, est-ce que tu suis ou...
Je suis, parce que je connais la maison.
Ah, ouais,
tu veux faire visiter ma propre maison, c'est super gentil.
Ça me fait penser, le père de Richard avait un cellulaire et à un moment donné, je lui ai dit, c'est quoi votre numéro de cellulaire pour que je puisse vous appeler? Et il m'a répondu, je le sais pas, je m'appelle jamais.
Je m'appelle jamais, hein, oui.
Alors, est-ce que vous approuvez, M. Poirier?
Oui, c'est beau, The Godfather, c'est beau.
Oui. Moi, ça vous dérange pas?
Je l'ai vu comme 25 fois. J'ai tout sur le Godfather, j'ai le scénario, j'ai les livres, j'ai plein de trucs là-dessus. C'est mon film fétiche.
Et c'est encore le film le plus actuel.
Oui.
C'est vrai?
Sur la
mafia. Alors, c'est vrai? Ce que j'aimais de Goodfellas, c'est que dans Le Parrain, ils montrent comme des gens mythifiés, plus grands que nature. Tu sais, dans Goodfellas, ils montraient rien que c'était des petits minables.
Oui,
c'est
vrai.
Des personnes minables.
Ouais.
Tu sais, et le film avec Al Pacino, là, c'est encore mieux. Là. Donnie Brasco.
J'étais pour te dire Donnie Brasco. Bon, ça, moi, après The Godfather,
c'est bien fait.
Ils sont toujours.
Donnie Brasco,
il est toujours habillé en mou, là, Donnie Brasco. Ouais. Il est comme minable.
Claude Poirier est en train de fouiller dans les.
Hey!
J'ai tous les livres de.
Sur John Kennedy.
Ça, le livre de. Ce livre-là de William Raymond, je l'ai lu 10 fois.
C'est vrai?
Je suis allé 3 fois à Dallas parce que je suis complètement fasciné par cet épisode-là de l'histoire. Puis à chaque fois que je vais à Dallas, je fais le pèlerinage.
Ben oui.
Mais je m'assois sur le près du talus, là, où il y avait probablement le deuxième tireur était, là, ou le troisième, ou enfin un des. Je m'assois près du talus, puis je m'amène toujours un bouquin, puis un lunch. J'allais trois fois, je fais toujours la même chose. Puis je reste là des heures.
Rien pour avoir le mot de la place, les airs. Mais Vince Bugliosi, que j'adore, que j'admire, qui est un procureur, c'est lui qui a fait le procès de Charles Manson. C'est un grand procureur. C'est lui qui a réussi à coffrer James Manson. Vince Bugliosi, il est obsédé par l'histoire de John Kennedy. Il a passé toute sa vie à faire des recherches et tout ça, et il a écrit un énorme livre de plusieurs milliers de pages, OK? Et c'est la conclusion de toutes ses recherches, de toute sa vie. Et ça s'appelle Case Closed, je crois.
Ah oui?
Et il dit, c'est Oswald tout seul.
Il dit qu'il n'y a pas de deuxième tireur.
Il dit, c'est Oswald tout seul.
Il dit, il va contre la science.
Donc,
il
démonte tout ça, puis toute l'affaire, puis dit,
comment ça se fait que tu l'as pas, le livre?
Mais ben, c'est là, mais ben là, Claude, tantôt, il va pouvoir nous parler de Lucien Rivard. Parce que Lucien Rivard, il y a une partie...
Ça n'a rien à faire avec ça. C'est toute la bande. Moi, j'étais dans l'Est. En 63,
j'aurais pas dit autrement,
quand le Canadien s'est fait tirer... On continue, là?
Oui, on continue. Mais moi, je voulais raconter...
C'est tous les livres que tu as sur le bras, naturellement?
Non, c'est tous les livres qu'il achète. Mais regardez toute la partie ici, là, ici, il y a le Godfather. OK, je veux juste raconter une anecdote au sujet du parent. On est allé avec Richard en Sicile, il y a plusieurs années de ça. Et en Sicile, il y a une ville qui est la ville de Corleone. OK?
Ouais.
C'est rempli de petites boutiques où on vous vend des briquets avec le parrain dessus, puis des trucs, des t-shirts, vive la mafia quasiment. Puis c'est le contraste entre ça, le musée où on dénonce les méfaits de la mafia, puis les gens qui achètent des t-shirts du parrain.
Tout ce qui est le crime organisé intéresse les gens. Regardez les séries qu'il y a présentement chez Netflix. Je regarde ça dernièrement. C'est, de plus en plus, ça pousse comme des champignons.
Mais est-ce que ça vous dérange que les gens glamourisent ça puis banalisent ça? Non, ça vous
dérange? Si ça te dérangeait que l'autre t'a fait ta vie là-dessus, puis je fais la mienne là-dessus, ça serait bien maudit.
Oui, mais attends, vous, c'était la vérité. Là, on parle de fiction.
Oui, je comprends,
mais... la vérité, madame Sophie.
Vous avez toujours dit la vérité, en tout cas.
Alors, on continue?
Bon, maintenant, on mange, là. OK, on prend une petite pause, puis on va manger l'entrée. Pauvre Félix, comment ça se fait que tu bois pas de vin? Alors, je te sers de ce Soave Classico Inama, qui est recommandé par Patrick Daisy, des méchants raisins.
Ça a l'air bon. C'est quoi? C'est un vin sicilien, ce coin?
Là, je trouve que ce serait un bon moment pour avoir la musique du parrain.
Du parrain.
Parle plus bas, car on pourrait bien nous entendre.
Le parrain 3, on s'entend que c'est très décevant.
Oui.
Hein?
Moi, il y a quelque chose dans le parrain 3 qui, moi, m'intéresse beaucoup, beaucoup. Ce que j'aime, c'est qu'on peut le calquer avec ce qui se passe aujourd'hui, en 2019, c'est que la mafia devient un peu corporative. Si tu veux, on s'approche de ça. Ben, je trouve, même si le jeu, même si le scénario, même si tout est moins bon du parrain 3, d'aucuns disent, tout s'approche.
Sauf la scène quand sa fille meurt et qu'il pousse un cri sans son.
J'avoue.
Il n'y a pas de son, puis il crie. C'est une des grandes scènes de l'histoire du cinéma.
D'ailleurs, récemment, dans District 31, il y a une scène comme ça.
District 31.
Oh boy! Voulez-vous qu'on parle de District 31 pendant que vous vous servez de saucisses italiennes épicées, M. Poirier?
Oui, District 31.
Qu'est-ce que vous pensez de District 31?
C'est bien fait. Moi, j'aime bien l'auteur, d'abord.
Luc Dionne.
Luc Dionne, je l'ai connu à l'époque d'Omerta. Je l'avais rencontré dans le restaurant sur rue Jean Talon.
OK.
Et il travaillait via des dossiers de Boston.
Oui.
Et il rentre à un gars. Puis c'était le propriétaire du restaurant. Puis Luc t'as assis, puis moi j'étais assis. Le gars, quand il a eu fini de jaser avec, il dit, ça va être mon parrain, Dino Tabaronin.
Ah!
Non!
Puis il s'était fait crucifier par Michel Auger dans le journal qui avait parlé de ses problèmes de drogue, puis il avait été condamné. Puis...
Lui, il avait jamais été comédien?
Il avait jamais été comédien, presque.
Puis Luc l'a regardé, puis il a dit, ça va être lui.
Puis là, il cherchait quelqu'un. avec une grosse Cadillac, un roue, c'est ci, puis c'est ça, puis bosser un peu. Ben, j'ai dit, un gars qui est prêt, du gros nez, c'est Claude Blanchard. C'est ça qui a amené Claude Blanchard.
Ah, c'est grâce à vous que Claude Blanchard
c'est pas
était
grâce
dans
à moi, parce que lui,
mais c'est vous qui avez planté l'idée.
Et du jour au lendemain, Claude Blanchard, que les gens de la communauté artistique le boudaient, le méprisaient, soudainement, c'est devenu Monsieur Blanchard.
Ben ouais.
Moi, je ne comprends pas. Puis, tu sais, j'ai pas la... J'ai évidemment pas l'âge de Claude. Tu sais, j'ai 41 ans. Puis... Les histoires à la Blanchard me fascinent depuis que je suis jeune. Et présentement, même chez des gens de ma génération, Claude Blanchard est disparu.
Oui, c'est bizarre.
De notre histoire là, récente. Oui. Quand on enregistrait le podcast Narcos PQ,
oui.
On faisait un truc sur Lucien Rivard, justement. Puis, dans le podcast, finalement, il y a quelqu'un qui pense, c'est qui ça, Claude Blanchard?
Ben voyons donc.
Ben, Claude Blanchard.
C'est
t'sais,
fou.
Claude Blanchard, il y a 7 gars. T'sais,
Claude Blanchard, c'est bon. Ce gars-là connaissait Frank Sinatra. Ce gars-là connaissait...
Il y a 7 gars. Je pouvais dire au gros Cotroni, Frank, femme ta crise de gueule.
Il parlait comme ça à Cotroni.
Oui. Au restaurant, au coin de l'Angelier, Sherbrooke.
Mais pourquoi il a dit ça?
Des fois, il se pognait avec.
Ah, oh, le restaurant qui est Tiki?
Non.
Le Tiki Club qui se tenait?
Au coin de l'Angelier, Sherbrooke. Maintenant, c'est le butin métro que là.
C'était quoi le nom de ce restaurant-là, donc?
Je cherche le nom, là. Je l'ai donné moi.
Tu viens dans Goodfellas, justement. Le gars de la mafia est dans une aile spéciale de la prison, oui. Puis il fait de la bouffe, là.
Oui,
puis, il coupe son ail avec une lame de rasoir, très finement, en prenant son temps, puis il fait de la bouffe, c'est très drôle.
Mais il y avait des dindes, je pense, souvent, Claude le confirmera, mais quand les Italiens étaient en prison, il y avait des dindes au jour de l'an, il pouvait faire rentrer à peu près tout ce qu'il voulait. Là.
C'est le fun. Tim qui était le messager de Frank Cotroni.
Il s'appelait comment?
Pete Sutton, il est mort aujourd'hui.
OK.
Lui, il pouvait arriver avec... Il allait acheter des filets millions, il allait acheter n'importe quoi. Il amenait ça au pénitentiaire, au centre fédéral de formation, en tant que Frank était là.
Il n'avait pas besoin de drone pour faire rentrer ça, là.
Ben non.
Un directeur. C'est tout à l'avantage des gardiens.
Un directeur m'a toujours dit, en fait plus qu'un, quand tu as des gens leaders à l'intérieur des murs, tu les soignes bien. Parce que tu es sûr qu'il n'y aura pas de trouble à l'intérieur des murs.
C'est sûr, il n'y aura pas de soulèvement.
C'est ça.
Une façon de dire, regarde, je te donne des cadeaux, mais toi, en contrepartie...
Organise-toi, j'ai pas de trouble.
Ben, j'ai
pas
de trouble.
Il y a des gens que ça peut choquer, mais en même temps, c'est ça la réalité. Là. Si ça fait qu'il n'y a pas de trouble en prison, ben, why not?
En même temps, la même logique, tu l'observes sur la rue aussi, tu sais. Mm. C'est Claude le sait aussi. Là. Les policiers ne diront jamais, officiellement, que ça faisait leur affaire d'avoir Vito Rizzuto.
Mais dans la réalité,
rue.
Oui.
Hein? Tu sais, ils disent pas, les policiers, que ça faisait leur affaire d'avoir Vito ici.
Mais le
ils
gars,
disent,
le gars
ils disent pas officiellement.
Le gars de Saint-Constant l'a dit.
Oui,
dans l'article.
Oui, mais tu sais, sur le bout des lèvres quand même. Là. Mais tu sais, tu verras jamais dans un bulletin de nouvelles un policier dire, ouais.
Ben non, c'est...
C'était mieux quand il était là, parce que tout le monde était plus tranquille, parce que, tu sais, il était capable de... Puis comment on dit ça, hein, dans la rue, dans le milieu? Il donnait à manger à tout le monde. Tout le monde avait...
Pas juste ça.
Tout le monde avait... pouvait faire un peu d'argent.
Moi, j'ai
tout
connu...
Le monde pouvait,
j'ai connu la période de Vic Cotroni. J'ai connu la période de Paolo Vieli. Et je pense que, sans se tromper, Vito Rizzuto était un négociateur hors pair.
Ouais.
Et quand, à un moment donné, il s'est fait appeler, rencontrer des gens à Buffalo ou à Toronto, puis il a dit, vous allez régler avec Fred Fauché et m'a bouché la guerre des motards.
Il va y avoir plein de clins d'œil au parrain ce soir, parce que le parrain, c'est ma Bible, c'est mon Coran. Ça explique tout, le parrain.
Pas ton
ça
Coran, pas tout. Sûr?
Là, oui. Mais... Alors, la scène dans le parrain 1, où tous les membres, les chefs de chaque famille qui se réunissent pour faire la paix dans le restaurant, et... Don Corleone qui a perdu son fils Sonny,
l'autre, les Tataliens, puis tout ça, qui se lèvent, puis qui font la collane, c'est ça, là.
C'est ça. Ben, c'est un peu ça, mais la classe en moins, tu sais. Parce que...
Oui, mais c'est pour ça que moi, j'ai un problème, Richard. Tu viens exactement de mettre le doigt dessus. C'est que dans la vie de tous les jours, là, c'est des gens qui cassent des jambes, qui mettent de la drogue sur le marché, qui prostituent des femmes, qui n'hésitent pas à te mettre une balle entre les deux yeux. Puis là, dans la vie, c'est des trous de cul. Puis là, dans les films, on est là, puis « Oh mon Dieu, le parrain, quel homme sympathique! » C'est exactement le même problème. Attends, laisse-moi finir. C'est le même problème que j'avais avec la série télé Les Sopranos, que toi, t'as adoré, que moi aussi, j'ai beaucoup aimé.
J'aurais bien fait.
Mais j'avais tout le temps un problème, Monsieur Poirier, j'avais tout le temps un problème, parce que à un moment donné, justement, Tony Soprano, sa fille veut aller à l'université, puis là, il part avec elle en auto, puis là, il veut visiter différentes universités avec sa fille. Fait que là, t'es là, puis tu dis, « Ah, oh, finalement, c'est un homme comme les autres, hein? Il magasine des universités avec sa fille. C'est un tueur! C'est un ribou, c'est un trou de cul! »
N'exagérez pas, là, Sophie, là.
Ben là!
Il y a un paquet de monde dans notre société qui sont pas connus du milieu policier, puis sont des bandits, Chris. Fait que arrêtons de ça, là, c'est parce qu'on a identifié certaines personnes du crime organisé. Il y en a un maudit paquet qui sont des bandits, qui ont fait des choses épouvantables.
Mais des bandits à cravate, on les appelle des bandits à cravate.
C'est ça.
Ils n'ont pas tué des gens?
Non, non.
Mais
tu sais, mettons...
Il n'y a plus de code d'honneur, ce qu'il y avait autrefois. Autrefois, il y avait un code d'honneur. Quand on voulait passer quelqu'un, on savait, on pouvait le cibler, puis on le faisait.
Ben, le gars qui s'est fait tuer récemment, en pleine fête pour la première communion de son fils...
Je peux-tu vous dire que
dans le milieu... Ça, c'est pas un code d'honneur,
mais non, je vous dis qu'il n'y a plus de code d'honneur.
C'est ça, c'est un bon exemple.
Peux-tu vous dire que dans le milieu, personne pleure sa mort?
Ben non, c'est sûr, la mort de Salvatore, c'est quoi pas, non? Parce que c'est un psychopathe sanguinaire.
Lui et son frère, là, m'a dit une chose, il n'y a personne qui pleure.
C'est drôle, d'ailleurs, la réaction...
Attends un peu, là, Claude, là. Tu sais, là, je te dois respect. Je t'ai déjà dit une fois que c'est toi qui m'as donné... Te rappelles-tu, là, quand le négociateur commençait à te dire, le vrai négociateur, j'avais dit à Claude, c'est toi qui m'as donné cette impulsion-là pour aller considérer la couverture des affaires judiciaires, policières, puis du crime organisé, mais surtout du crime organisé, dans mon cas, de manière différente. C'est-à-dire en parlant aussi aux bandits.
Ouais. C'est ça que vous fasse.
Ça, je l'ai pris de toi, puis c'est de la manière dont tu as fait les choses qui m'a donné le goût de les faire comme ça.
Ouais.
Donc, sur ça, je revendique un droit de parole sur Salvatore et Andrew Scopa. C'est sûr qu'il n'y a personne qui pleure la mort de Salvatore Scopa parce que c'est un psychopathe sanguinaire et lui-même, c'est un tueur dégénéré.
Il a tué
au moins 12 personnes.
Non,
mais il a tué 12 personnes.
Ouais.
C'est lui qui a fait tuer Rocco Sollecito, c'est lui qui a fait tuer Skunk Lorenzo Giordano.
Mais c'est pas un enfant.
Mais son frère Andrew, par exemple, a beaucoup plus de respect dans la rue que lui.
Oui.
Bon, ben, c'est ça, retire tes paroles.
Non.
Alors. Je peux survenir sur tes
Godfathers et tes Sopranos, tout ça.
Moi, je pense que le problème, Sophie, que tu as quand tu regardes ça, c'est que tu le regardes sans te détacher de ton système de valeurs. Puis moi, je pense que quand tu couvres ça, quand tu regardes ça, il faut que tu te détaches de ton propre système puis que tu acceptes qu'il y en a d'autres. Inhérent à la société dans laquelle on vit.
Oui, mais par exemple, quand je regarde la série, quand je regardais la série sur Pablo Escobar, c'est M. Poirier utilisait le terme tout à l'heure, un psychopathe. Pablo Escobar, je veux dire, comment je peux avoir, pendant deux secondes, me mettre à la place de Pablo Escobar ou sa femme ou ses enfants? Ou comment je peux me mettre dans sa tête en me disant, ah, ben, il y a juste un système de valeurs qui est différent du mien?
Non, mais t'as une gradation dans tout ça. C'est-à-dire que quand tu regardes, disons, les Sopranos.
Oui.
Claude parlait de code d'honneur, tout ça. Ils avaient une manière différente de tuer. Ils ont une manière différente de mener leurs activités criminelles. Donc, tu peux te figurer leur système de valeurs à travers ça. Quand tu regardes des trucs comme Narcos, puis Pablo Escobar et tout ça, il y a une manière beaucoup plus... C'est un narco-terroriste.
C'est la puissance 10.
C'est un narco-terroriste, Pablo Escobar. Donc là, tu peux l'analyser selon ce propre système-là, puis, et ainsi de suite. Mais je pense que dans le cas des Italiens...
Il y a des salauds qui sont plus salauds que d'autres salauds, mais ça reste des salauds.
T'es une fille pragmatique.
Je suis une fille.
Non. T'es une fille pragmatique. T'es pas dans l'utopie.
Non.
OK? il va toujours avoir de la prostitution.
Oui.
Il va toujours avoir
de la drogue.
Il va toujours avoir des prêts usuraires. Oui. Des gens qui ne sont pas solvables par les banques,
c'est
qui ont besoin de se faire avancer de l'argent. OK, à partir de là, qui tu veux qui régisse ça? Les gangs de rue, les Hells ou la mafia?
La mafia.
Alors, le mieux est l'ennemi du bien. Alors, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un gère ça. Entre les gangs de rue, qui sont une gang de frostés complètement fous, les Hells Angels ou la mafia,
parce que les gangs
où
de rue,
reste
ils ont
quand
pas,
même un certain
ils n'ont
centre.
Pas d'organisation. C'est ça le problème.
Une organisation, tu préfères que ce soit la mafia qui gère ça?
Ben oui.
Ben, tu sais, je pense,
donc,
oui, tu sais, je pense
nécessaire.
Que c'est ça.
C'est ça que tu veux dire, c'est un
c'est
mal
le moins
nécessaire.
Pire des mots que tu peux avoir quand ce système-là est en place, tu sais. Puis, on parlait des bandits à cravate tantôt, là.
C'était moi qui disais bandits
toi,
à cravate,
hein? Ouais. Ben, tu sais, Claude a raison, tu sais.
Regarde, là, ces jours-ci, on apprend le montant de l'ampleur de la fraude à Laval.
Oui.
OK? Et je ne sais pas si c'est toi ou un de tes collègues qui est allé rencontrer du monde à Laval. Je pense que c'est, bon, évidemment, des centaines de millions de dollars. On est capable maintenant de le chiffrer. Puis il y a encore des gens à Laval qui disent « Ouais, mais moi, je l'aimais, Gilles Vaillancourt, les poubelles étaient sorties à temps, puis c'était
bon,
le fun. »
Pas juste ça. Il faut quand même admettre qu'il a fait développer Laval. J'avais pas connu la période de l'île Jésus, vous autres. Hein? Ça, c'est pas la même chose.
Non, mais vous allez quand même pas trouver des qualités à M. Vaillancourt, M. Poirier.
Je ne trouve pas de qualité à M. Vaillancourt. Il y a des gens qui étaient au courant des situations puis ont fermé les yeux.
Tout à fait.
Pendant longtemps.
L'omerta.
Pendant longtemps. Ouais. Comment se fait-il qu'un ancien ministre est allé dans son bureau un jour puis il serait fait affaire un montant d'argent puis il n'a jamais porté plainte?
Il n'a jamais rien dit.
Fait que faites-moi pas rire.
Vous avez raison en maudit. Ah ouais. Vous avez répondu à cette histoire-là. Là. Ouais. Puis il est allé là, on l'a su par après. Comment se fait qu'il n'a jamais porté plainte à
jamais.
L'époque?
Jamais.
Claude, c'est un des rares, un des seuls qui parlait à Maurice Boucher pendant la guerre des Montants.
Un des seuls à qui
le
Maurice
seul.
Boucher acceptait de parler.
Ça a pris du temps, moi. Ça m'a pris 5
Comment
ans.
Vous avez fait?
Maurice Boucher haïssait tous les journalistes. Il en voulait à aller aux polices énormément. Et quand que Jonf s'est fait tuer à Verdun...
Renaud Jonf.
Les Rock Machines sont venus me voir un matin à 5 heures sur le stationnement puis ont dit... Vous faites bien des choses sur les ailes. Allez aux polices. On aimerait ça, avoir la possibilité que vous faites une couverture. Alors, je dis, moi, je vais en parler. Je suis pas un patron, mais je vais en parler à qui de droit aller aux polices. J'en ai parlé à qui de droit aller aux polices. Et Jean-Pierre Rancourt, qui était caméraman à TQS, je l'avais amené avec moi. Puis on est allé au salon funéraire. Puis on a fait des entrevues. Puis on a fait des choses. Puis ça avait chatouillé un peu m'embouché.
Ah oui,
alors moi,
chatouillé assez... dans le bon sens du terme.
Il était pas tellement heureux qu'on avait consacré beaucoup de choses à Jonf.
Okay.
Et là, à un moment donné, je dis à Bob Savard, écoute Bob, j'aimerais ça pouvoir parler à m'embouché. Ah, il dit, il veut rien savoir. Alors un jour, par pur hasard, il y avait sa maîtresse au coin de Pineuf et... Sainte-Catherine.
Donc, ils ont toutes des maîtresses, ce monde-là?
Des Goombas.
Des Goombas, comme dans Le Soprano.
Il m'a appelé, puis il m'a dit, rentre-toi à tel restaurant, Sainte-Catherine et Pinot, je vais te rencontrer. Là, il commence à me crier par la tête. J'écoute bien, on va pas élever cochons ensemble. Là. Je dis, moi, là, si tu veux me donner leur juste, donne-moi leur juste. Je dis, moi, quand j'ai eu leur juste, la bombe sur le boulevard de Maisonneuve, Mike Blass, puis l'autre qui était... qui était impliqué là-dedans, qui est mort aujourd'hui, un autre délateur. J'ai dit, j'aimerais ça que tu me donnes. Alors, c'est de même, ça a commencé.
Ouais.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Ah.
Moi, ce que je trouve fascinant de Sophie et Richard, t'as beaucoup de qualités aussi, je veux te dire. Okay. Mais on est des gars d'affaires policières et crimes organisés, là, particulièrement. Sophie, quand tu prends un dossier de crimes organisés puis d'affaires policières, puis qu'on fait des entrevues avec toi, là, t'es comme ils disent en français, dead on.
T'es gentil.
Vraiment, là, ça, c'est le fun.
Moi, j'ai bien aimé ton article aujourd'hui.
C'est le fun quand
gentil,
tu as.
Merci.
Le milieu des tartines.
Moi, j'ai toujours pensé pour elle que non. C'est un contre-emploi.
Des tartines. Tu comprends?
Pas des artistes.
Des
de faire ces genres d'entrevues-là.
Ah non, j'adore ça.
Servez-vous s'il vous plaît.
Bon, merci, parce que Claude Poirier trouve que je suis trop contrôlante, mais je voulais juste vous dire que les pâtes sont prêtes. Alors, on a des pâtes aux saucisses avec de la sauce rouge et des pâtes aux champignons avec de la sauce blanche. Et j'ai demandé pas de fromage parce que vous êtes allergique,
Claude.
C'est excellent,
Claude. Ben ouais, c'est excellent.
Merci. Bon. Elle aime beaucoup les affaires judiciaires.
J'adore ça.
Mais Sophie, sa grande frustration dans la vie, je vais te le dire, elle aurait voulu être avocate.
J'aurais adoré ça.
Elle aurait voulu être avocate, elle le regrette amèrement, puis je pense qu'elle aurait été excellente avocate. Mais bon.
Pire, avez-vous vu?
Mais tu vois, ce que je disais à Richard tantôt, c'est que moi, j'avais l'impression que pour toi, c'était comme un contre-emploi de faire des entrevues sur ce sujet-là. Mais non, pas du tout.
Au contraire, je mords là-dedans, j'adore ça.
Exact.
Quand Richard Blass, le cimetière pendant 11 heures, je leur disais. On se rencontre au cimetière. Quand tu vas arriver, fais partie des clients.
Hein?
Moi, je vais savoir que c'est toi qui arrives. Parce que moi, je veux pas, j'ai pas envie de tomber dans le trap. Mm-hmm. J'en ai toujours. Moi.
Il y a Richard Blass.
Richard Blass.
OK, vous rencontriez
Blass.
Richard Blass qui était. Richard Blass qui était un bandit.
Au cimetière.
Le chat.
Un bandit et un psychopathe.
Ah ouais, dangereux, à cause de...
Un psychopathe dangereux.
Un des pires
bandits.
À cause du crime épouvantable
du Gargantua.
Parce qu'il s'est fait crosser.
Gargantua, aussi, qui était un bar. Il avait fermé la l'issue de secours. Il avait fermé la seule porte de sortie. Non. Et il avait crissé le feu là-bas.
C'est un endroit où il y avait de la bière, puis il y avait des affaires.
La chambre froide.
Une chambre, pas tout à fait une chambre froide.
Mais donc, Richard Blass, qui était un fou psychopathe, il envoyait des photos de lui avec des guns, puis tout ça, c'était l'époque des grands bandits.
Ennemi public numéro un, Charles Blass, à ce moment-là, parce que Jacques Mérine ou Jacques Mesrine, dépendamment.
Il était moins connu.
Mais donc, il a mis un contrat sur votre tête.
Ben oui, parce qu'il y avait eu une affaire au bar salon Gargantua. À un moment donné, Blass était venu me rencontrer à nuit chez nous à Ville-d'Anjou. J'habitais chez mes parents. Il était avec Claude Ménard. Puis là, il a commencé à me dire, on va faire un tour de machine.
Un tour de machine dont on ne revient pas.
Mais ça, je ne
vais pas faire
un
tour de machine. La police de Ville d'Anjou a passé.
Où?
Devant chez moi. Il était 2 heures du matin. Et là, le policier me dit, M. Poirier, c'est quoi spécial? Non, je suis avec des amis. Moi, je suis un partisan des Brooms de Boston. J'ai dit, un des gars était partisan des Brooms parce que moi, Richard Blass était un partisan des Brooms. Puis il y avait Claude Ménard qui était partisan du
Pourquoi vous n'avez pas saoulé?
Vas-tu vivre du temps emprunté après? Voyons donc.
Non, c'est ça, parce qu'après ça...
As-tu déjà eu peur pour ta sécurité?
Pas tant, non. Pas tant. C'est l'époque...
Mais il y a un gars qui a fait des menaces à ton sujet.
Vous?
Oui.
Il s'est retrouvé en prison? Qu'est-ce qu'il...
Moi, j'ai une tête brûlée, tu sais, lui.
Non, mais c'est pas pareil, là. C'est pas pareil.
Claude est de l'époque où... Il y avait quoi comme bar où tout le monde se tenait? Puis où,
faisant de rire, puis tout ça.
Non, mais il y a eu, là, l'époque des cagoules rouges. Ouais, il y avait, tu sais, les Casaloma, chez Roger, le Lion d'Or.
Ah, c'est la boîte à poux.
Ce qui est rentré.
La boîte vocale, c'est la boîte à poux.
Oui, c'est ça.
Ce qui est
rentré. La boîte à poux.
Pourquoi la boîte vocale, vous l'appeliez la boîte à poux?
J'ai jamais parlé de la boîte à poux. J'ai dit.
T'as des problèmes,
là. Des problèmes dans la boîte à poux, c'est pas la même chose.
Mais là, vous disiez, là.
La tête.
Vous m'appelez si vous avez des choses à dire.
Est-ce que, à un moment donné, vous, Claude, vous avez eu peur? Vous avez dit, ma dernière heure est arrivée.
C'est eux, quand Chauffy s'est fait assassiner.
Oui.
Moi, cette nuit-là, il y a un gars qui m'a appelé, puis il dit, si tu veux savoir qui c'est qui l'a fait, puis si tu veux avoir l'âme, ta cagoule, puis tout ça, ça prend 10 000 piastres. Bon, j'ai dit, je vais voir ça. Puis là, à un moment donné, j'avais des téléphones dans ma voiture. Moi, j'avais 3 téléphones à une certaine époque, 3 téléphones. 3 cellulaires. Il y avait un cellulaire, il n'y avait pas grand monde, tu vois. J'opère encore avec ça.
Ben oui, le flip.
Ça, c'est... Écoute.
Ah, avec un paget.
C'est la meilleure.
Tragède. Vous c'est êtes la dernière endroit. Personne au Québec c'est, qui a une tragède.
Non, non, mais
les médecins avaient ça, mais il n'y a plus personne qui a non, ça.
Il y en a, les médecins l'ont encore.
Avant de partir, il faut prendre ça en photo. Là,
ben non, oui.
Non, 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 mais là, écoutez. Écoutez, là, ça existe encore. Ça finit à la fin du mois de juin. C'est une autre compagnie.
Non.
Là, les corps policiers et les pompiers volontaires sont tous paniqués, là, parce que le service Paget n'existera plus à Belle. Ça, là, c'est un code. Quand quelqu'un m'appelait, moi, je savais, par exemple, si c'était 666, je savais qui appelait.
C'était le diable?
Non. C'était Mom Boucher.
Mom Boucher, son code, c'était 666. Ouais. Quand c'était votre femme qui vous appelait, c'était les
c'est bien rare qu'elle se servait de ça.
Mais moi, j'essaie de comprendre votre horaire. Là, vous nous dites, il est arrivé à la fin, il était 3 heures du matin, j'étais dans un restaurant. Dormez-vous des fois?
Non, je ne vous parle d'une époque. Là. Je ne vous parle pas de récemment. Là.
D'accord.
Je vous parle d'une époque.
Mais à l'époque, vous dormiez jamais.
Ben non, je travaillais, c'est sûr, j'ai fait mon nom de même.
Moi, ce que je veux, c'est que vous nous racontiez, parce que souvent, je parle à mon fils de la façon dont vous, vous avez commencé dans le métier. Parce que moi, je veux que vous soyez un modèle pour mon fils. La façon dont vous avez commencé, parce que la génération aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que tu me donnes. Vous, vous ne pensiez pas comme
ben non,
ça.
Non, non, mais ça a commencé, c'est le 11 août 1960. Mmh. Je travaille pour mon père. Mmh. Je suis dans ma voiture, décapotable, météore, blanc. Et je stationne ma voiture sur rue Saint-Hubert. Je pognais une contravention. Alors, il ne faut pas que Léo sache que j'ai eu une contravention parce que la voiture est au nom de la compagnie. Alors, je descends.
C'est quoi la job?
J'étais représentant. Mon père avait une compagnie d'accessoires électriques.
OK.
Matada et Mont-Royal. Alors, j'arrive à la Caisse populaire Sault des Récollets, au coin d'Henri Bourassa et Papineau. Vous savez, là, ça n'existe plus, là, la banque.
Le fameux hold-up.
C'était ça. Alors, il y a un gars au volant d'un Oldsmobile noir, une tuque sur la tête, jusqu'ici, des gants. On était au mois d'août, 11 août 1960. J'ai même pas le temps de descendre. Les coups de feu partent. Je me suis crissé en dessous de la voiture. Il y avait un policier qui était en congé parce que sa femme venait d'accoucher. Il était dans l'intérieur de la caisse. Il a tiré un gars. Et il y a eu une poursuite par la suite. Moi, quand ils ont enlevé la cagoule du gars, c'était un gars qui avait travaillé à la compagnie de mon père.
Alors moi,
il y avait une boîte téléphonique. À cette époque-là, il y avait un concours à 6GMS. Alors j'ai appelé. Puis j'ai dit, je suis sur les lieux d'un accident, un hold-up, puis un bandit tué. J'ai dit, je vais vous donner la nouvelle. Puis ils ont dit, restez là, on va vous passer en nombre.
Incroyable.
J'ai entraîné Bernard Brisset-Deneau. Il m'a dit, ça va être mon genre. Veux-tu l'entraîner? Il est venu une fois sur une fusillade avec moi, Calis, des ruelles, là, si, pour se faire tirer. Il a pris un taxi, puis il est revenu au journal, il a jamais rembarqué.
Ben, c'est pas pour tout le monde.
Alors que moi, ça, quand ça arrive, ces affaires-là, je suis
t'adore
comme...
T'adore ça.
Donne-moi toi, en plus.
T'as commencé comment dans les...
Hey, moi, j'ai étudié en sociaux.
Hein?
Tu sais, c'est ce qui me fascine dans la vie, tu sais, la socio.
Mais non, mais tu t'intéresses à l'être humain.
Bien sûr. Puis de son fonctionnement dans son groupe social. Tu sais, puis en fait, le fait divers, c'est exactement ça.
Ce n'est que de la sociologie.
Ouais.
C'est uniquement ça. Puis comment je commence, moi, je commence à travailler à la radio à 50 km du cercle arctique, à Hearst, en Ontario.
Et boy, faut vouloir.
À Hearst, en Ontario, puis j'ai un job d'animateur de radio d'une station communautaire musicale. Et je suis particulièrement mauvais. Mais, en fait...
T'étais pourri.
J'étais pourri, tu sais.
J'étais pourri, tu
sais. J'adore les livres, j'adore la musique, j'adore les films, mais me demander de mettre 130 secondes, tu sais, vous venez d'être joyeux, puis d'aimer la vie, puis c'est beau, puis il fait 18, puis DJ.
Après ça, t'es arrivé à TQS?
Après ça, de fil en aiguille, j'allais travailler à Ottawa. Puis après ça, je suis arrivé à TQS à fin 98.
Qu'est-ce que tu faisais à TQS à l'époque? Moi, j'étais là. Je travaillais, je faisais 24 sur 24.
Ben juste, c'est ça.
C'était quoi ton but?
Moi, je suis entré à TQS quand Jean-Luc Mongrain est arrivé à TQS. Ouais,
c'est ça.
C'est un peu juste après que tu sois...
Parti.
Parti.
Après TQS.
Ben après TQS où là, c'est Jean-Luc Mongrain, puis là, c'est le bouton noir, tu sais, de la télé, puis moi, j'ai un loft dans Saint-Henri, puis tu sais, on est toute la gang des journalistes qui sont là, là, on est vraiment les moutons noirs, puis on est trash, là. Fait que, tu sais, on couvre des trucs, mais on s'amuse plus que là. On s'amuse plus que d'autres choses. Puis là, à un moment donné, je me bleach les cheveux, puis ça arrive que là, c'est Serge Fortin qui m'appelle. T'sais.
T'as bleaché?
Oui, mais c'est bleaché les cheveux, perdu une gageure, tu sais. Là, Serge Fortin m'appelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est le vice-président de TVA, m'appelle. Il dit, écoute, c'est pas mal, toi, j'aimerais ça te rencontrer. Moi, d'autres journalistes que je nommerai pas parce qu'ils sont encore là, on fait la fête un soir. Je me présente jamais au rendez-vous avec Serge Fortin.
Non.
Mais jamais. Jamais.
T'avais oublié?
Non, mais t'es trop torché.
T'as trop torché. Je pouvais pas y aller. T'sais, on t'a... Écoute, on
ben a... Moi, j'ai connu l'époque
de lui.
C'était
la chance. C'était la chance.
Lui, Joël. Joël ouais, Goulet.
Ça, en fait, tu vois, lui, je peux le dire, Joël.
Joël Goulet. Pis
il est rendu quoi, non, Joël, maintenant?
Je sais pas, mais il t'a porté une valise pour la mer de Terrebonne.
Boum.
Boum, bingo. Donc, t'étais trop torché.
Je suis pas allé au rendez-vous avec l'un des plus grands patrons de presse au Québec.
Bravo, Félix, je suis fière de toi.
Et finalement...
Alors, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ne faites pas ce que Félix a fait.
Est-ce qu'il t'en a voulu?
Je sais pas. J'ai bien l'impression parce qu'à un moment donné, je me fais finalement, je suis tanné de TQS, puis tu sais, là, je commence à me mettre un peu de plomb dans la tête, puis je dis, bon, il faudrait bien, tu sais, maintenant que je sais que j'adore être journaliste, que je le fasse de manière plus sérieuse. Puis je me fais engager par une autre personne à TVA, à JE, qui n'en parle pas à Serge Fortin avant. Puis là, tout d'un coup, j'arrive à TVA, puis je croise Serge. Je pense que ça m'a pris. J'ai fait des week-ends puis des soirs pendant 10 ans.
Hein?
Avant.
Parce que pour te faire.
Ouais, ben, peut-être pas non plus, là, mais j'ai pas pris le chemin, disons, facile. J'ai pris. Mais en même temps, je regrette absolument rien de tout ça.
Ouais.
Rien de rien de tout ça. Parce que.
Et qu'est-ce qui t'a amené au fait divers?
Ben.
Les chiens écrasés,
ouais, c'est ça. Mais c'est parce que les chiens écrasés, là. Quand tu commences à couvrir ça, tu rencontres un policier qui est sur cette scène-là.
Exactement. Hein?
Tu rencontres un ambulancier qui est là. Lui, comme toi, vont évoluer dans leur carrière. Il se peut fort bien que ce policier-là devienne inspecteur. Tu comprends?
Il se peut fort bien devient juge.
Que l'avocat devienne juge. Il se peut fort bien que plein de situations comme ça t'amènent dans un parcours parallèle à avoir un sapristi bon carnet de contact. Puis moi, ça, outre le fait que déjà à 9 ans, je demandais à ma mère de m'acheter les fascicules dossier meurtre qui racontaient des crimes complètement crapuleux.
C'est trop mignon.
Mais ça, stratégiquement,
ouais.
Moi, je trouvais que ça le faisait, comme on dit. Je trouvais que c'était une idée qui était une idée assez géniale pour cultiver un carnet de contact qui m'aurait permis de sortir plein de trucs, plein de scoops, puis de nouvelles. Sur plein de facettes de notre société, puis c'est ce qui est arrivé, en fait.
L'histoire de l'humanité se retrouve dans un palais de justice. Des meurtres, des drames conjugaux, tu sais, je veux dire,
quand j'ai commencé,
les grands auteurs...
Quand j'ai commencé, il y avait la presse écrite, 5. Ouais. La presse, la Gazette, Montréal Star, Montréal Matin, Journal de Montréal n'existait pas. Et aujourd'hui, regardez, des équipes complètes de télévision sont dans les palais de justice à Montréal, à Québec. Les journaux sont tous présents. Ça n'existait pas autrefois.
C'est l'homme dans toute sa complexité.
Ça n'existait pas. Regarde les bulletins de nouvelles le soir. Avec quoi qu'on commence dans 80%?
Palais de justice.
Un fait divers.
S'il y a une implication sociale qui est importante.
Ouais, mais
oui,
on a changé. Même ça.
On a changé.
Regarde l'affaire Turcotte. Il y a une implication sociale.
Bien sûr.
Le monsieur qui a tué sa femme, là, qui ne pouvait pas avoir le droit à mourir dans la dignité, ça a une implication sociale. Ah ouais. Toutes les histoires que
sais-tu quoi? Je vais te donner le meilleur exemple de ça,
de
Sophie.
La petite
fille de Granby. Je réfère à un débat qui existe, que Maxime Bernier Et ces gens d'Alabama viennent de remettre au goût du jour l'avortement. Jean-Guy Tremblay,
ah, puis Chantal.
Qui est un d'aigle.
Chantal d'aigle.
Qui est un batteur de femmes.
Je l'ai connu, Jean-Guy. Il a fait des menaces en pleine télévision.
Il a été reconnu, ce gars-là, comme un criminel d'habitude.
Ben oui, mais il est venu faire des menaces en pleine télévision.
C'est un batteur de femmes. C'est un violent.
Il voulait pas que sa femme, sa conjointe, son ex
se fasse avorter. Il a fait des menaces en pleine télévision.
Parce qu'il faut rappeler, parce que les gens qui ont moins de 30 ans ou 40 ans n'ont pas connu ça. On ne parlait que de ça tous les soirs. Pas,
mais là, une autre histoire qu'on a parlé, qui est mort déjà, le docteur Henri Morgenthaler, qui a amené la cause, la cause suprême à dire, vous ne changerez jamais maintenant un jury. Mais j'aimerais que le temps file, qu'on parle également.
Attends un peu avant, Claude, là.
Attends.
Avant, juste te dire que je pense que moi, je peux crier bingo. Quelqu'un qui peut crier bingo?
On peut tous crier bingo. Mais prenez-le dans le bon sens du terme, Claude.
Claude, j'avais pas eu le temps d'amener du vin.
Ah, ben t'es gentil. Tu m'as pas fait un cadeau?
Non. J'ai fait une liste, ça s'appelle le bingo, Claude Poirier, des mots que tu étais le plus susceptible de prononcer ce soir. Richard Blas, Frank Choufi, Faisant Doré, Casaloma, Rond de Cuir, Porteux de Valise, Je crie pas police, Boîte à Poux, 10-4, La Couchette en ta défense et La Couronne, Sidney.
Ça, je l'ai pas emporté.
Non, il y a juste les deux derniers, mais je pense que...
La Couchette et La Couronne, c'est ça.
C'est quoi, La Couchette en ta défense et La Couronne, c'est quoi?
Ben, ils s'entendent. As-tu vu aujourd'hui le gars qui a fait des menaces de mort sur des sites? Le juge aurait dû le mettre en prison aujourd'hui. Mais compte tenu que l'avocat de La Couronne puis de la défense, ce que j'appelle... C'est moi qui ai sorti ça. Si j'ai appelé La Couchette, comme les sentences bonbons, roses d'ananas, j'ai sorti ça, moi, les sentences bonbons, vous voyez, bien du monde qui emploie ça.
Mais moi, je l'utilise, Richard l'utilise, Félix aussi. C'est vous qui avez inventé le terme.
Ben oui, j'ai sorti ça à un moment donné comme
sentence
ça.
Sentences bonbons.
Ouais, sentences bonbons.
C'est vous, là.
Non, mais il y a un lexique du fait divers qui vient avec Claude aussi. Je pense qu'on.
Ça, j'ai pas. C'est vrai, j'ai jamais été un gars qui a crié police.
Je ne crie pas police, ça, je le disais souvent.
Richard Martineau rend public ou déroge à l'ordonnance de la cour parce qu'il a mis les funérailles de la petite fille qui était publique.
Je l'ai faite.
Voyons, c'est de la merde, ça, Chris. C'est pas méchant. C'était pas méchant.
Je l'ai fait sur Facebook.
Je le sais, je l'ai vu. Moi, non, je vais te dire une chose. Malheureusement, quand on protège dans l'enfance de 7 ans de Granby, celle qui s'en est occupée, puis son esti de père, c'est des esti de pourris du calice. Là, c'était pour protéger son petit frère. Voyons, tout le monde le savait. C'est comme l'affaire Turcotte. C'était tout sur les réseaux sociaux. La cour n'a pas de pouvoir là-dessus.
Mais non, c'est ridicule.
Alors, je m'excuse. Moi, je m'excuse, j'étais encore un type d'aplomb. J'aurais dit, il s'appelle un tel, parce qu'il s'appelle un tel.
Vous l'auriez dit en nom. Attends une seconde. Vous l'auriez dit en
nom.
Le nom, l'identité de la petite fille.
J'aurais dit carrément. Parce que arrêtons de protéger ça. Parce que ce gars-là, ça rentre aux peines. Après ça, vous êtes en prison. Moi, c'est pas grave. Je suis ici pour de la fraude.
On l'a enterré, cette petite fille-là, puis elle n'avait pas d'identité, puis on ne sait même pas. On l'a tué une deuxième fois. Moi, je trouve ça tellement triste. On l'a enterré. Puis sa photo, elle avait pas de visage. Tu savais pas en quoi ressemblait.
As-tu vu la dernièrement?
C'est épouvantable.
Dans son cercueil?
Non.
Elle est posée dans son cercueil.
Ah non, mais ça, je veux pas voir ça.
Ben non, tu fais pas ça.
Mais M. Poirier, ça veut dire que même si vous êtes plus présent dans les médias comme vous l'étiez, qu'il y a encore des choses aujourd'hui qui viennent vous chercher.
Je comprends.
Et qui vous rendent en colère.
Moi, c'est crapule-là. Je veux rien savoir de ça. Tu dénonces ça, c'est crasse de crapule-là. Ou je suis pas d'accord, ou je suis. C'est qu'aujourd'hui, tu prends quelqu'un, tu le crucifies sur la place publique, puis s'il est acquitté ou il n'y a pas d'accusation, c'est en page 26 dans une petite colonne gros de main.
Je voudrais vous dire, et Félix, parce qu'on travaille dans le même journal, regarde, je veux dire quelque chose. La façon dont je conçois ma job et ta job, OK? Et souvent, ça m'arrive de parler à des gens qui veulent être journalistes. Ils veulent être chroniqueurs. Parce qu'on met des chroniqueurs à l'avant-plan. Puis moi, je dis, s'il n'y avait pas de journaliste d'enquête, d'ailleurs, demain, j'écris sur toi, sur l'enquête que tu as menée. Moi, je fais du ski bottine. Moi, ce que je fais, là, c'est que je m'accroche à ce que les journalistes d'enquête font, souvent dans l'anonymat le plus complet, avec une job de fou, et moi, je pogne une ride. OK? Et ce que je dis souvent, c'est que la chronique, c'est la sauce qu'on met sur le steak, mais l'enquête, c'est le steak. Et tu peux vivre en mangeant seulement du steak, mais tu peux pas vivre en mangeant seulement de la sauce. Tu comprends? C'est ça, je dis. Fait que le plus important dans un journal, pour moi, c'est du journalisme d'enquête, qui est une job à long terme, qui est souvent une job frustrante, qui est souvent une job qui est moins à l'avant-plan, moins sous les spots, mais qui est une job tellement plus importante. Nous autres, on met la sauce après.
Moi, ce que je voudrais que quelqu'un comprenne, si tu me demandes si j'aimerais avoir un pouvoir d'influence, puis qu'à un moment donné, on me dise, écoute, tu m'as, je ne sais pas, moi...
Inspiré
à faire ceci, ou aidé à faire cela, ou tu m'as fait penser à ci ou à ça. J'aimerais ça que quelqu'un me dise, à un moment donné, tu m'as fait réaliser que ce job-là, c'est une job de col bleu, sauf que c'est de faire du journalisme. T'es pas plus important.
C'est une job de col bleu.
T'es pas plus important
que ton histoire.
Que ton histoire. Mais si t'es pas là, elle sortira pas.
C'est une belle conclusion.
Boum.
T'es pas plus important que ton histoire, mais ton histoire est importante en s'il vous plaît. Moi, je voudrais vous remercier tous les deux d'être venus ce soir. Monsieur Poirier, je sais que vous sortez pas souvent. Puis vous avez accepté de venir ce soir.
Non, c'est pas question de ça. D'abord, ça dépend qui avait été avec moi.
Mais là, pour Félix, vous avez
pourquoi,
dit...
Pourquoi
vous avez
Félix?
Dit oui pour Félix?
Parce que je trouve que Félix fait un bon travail. Mais moi, je me dis que ça a été agréable de faire l'émission. Si ça vous a plu, tant mieux.
Tant mieux. Puis moi, je vous remercie. Non, moi, je trinque pas avec un verre vide. Ah, toi non plus. Ben, il y a juste un monsieur Poirier qui a un verre rempli de Sprite.
Ah, ben, mets un peu de vin dans le verre.
On va chanter comme Jacques Brel. Ami, remplis mon verre.
J'ai bien aimé ta chronique aujourd'hui.
Vous avez aimé ma chronique? C'est gentil. Ben,
c'est bon.
Est-ce que on va aller au gala des tartistes?
Non.
Ah, il y en a, c'est bon.
Bon, on reprend?
On reprend. Merci.
Merci.
Donc là, on peut trinquer parce que tout le monde a un verre plein. Puis c'est la première fois de ma vie que je trinque avec du Sprite, avec quelqu'un qui a du Sprite dans son verre.
Tu sais, moi, je vais te donner un exemple. Le gala artiste.
J'avais fini. C'est ça qui est le fun avec l'autre.
Le gala artiste.
C'est le premier qui disait une fois un avant chaque local.
Oui, mais le gala artiste.
Oui, il y a une
comment se fait-il qu'il y a le gala artiste? Tu sais, cette année, là, c'était un peu plus.
Vous avez écouté le balado « Devine qui vient souper » avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.